Voilà, bonjour à chacun. Nous sommes heureux d'avoir de nouveau l'occasion de parler de la parole de Dieu et d'essayer d'en apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, on a déjà parlé beaucoup de la Genèse, on va encore y rester un peu, puisqu'on va évoquer quelques choses qui concernent la vie de Caïn et d'Abel. Dans la Bible, il y a un passage qui dit dans les Corinthiens, au premier chapitre, pardon, dans 1 Corinthiens, qui dit ceci. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc on va parler du cadeau et des cadeaux que Dieu nous fait. Dans l'histoire de l'humanité, on discerne dès le début deux attitudes opposées qui sont encore très courantes aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'elles s'expriment dans la Bible lors des événements tragiques vécus par Caïn et Abel. On trouve ça dans Genèse, au chapitre 4. Il y a d'une part ou d'un côté une attitude d'incrédulité, celle de Caïn, qui ne reçoit pas le témoignage de Dieu et qui adore Dieu selon l'imagination de son cœur, selon ce que lui il a décidé. Et puis à côté, il y a aussi une attitude qui n'est pas une attitude d'incrédulité, mais une attitude de foi, celle d'Abel, qui se prosterne devant Dieu et qui adore Dieu en fonction de la manière dont Dieu s'est révélé. Alors comment est-ce que cette attitude peut se manifester encore aujourd'hui? Je vous propose de lire le texte. Dans Genèse, au chapitre 4, Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Et elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de Dieu ». Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn en fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ?» Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi, Je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Jusque-là, notre lecture. Alors cette histoire instructive nous laisse en présence de beaucoup de mystères, il faut le dire. Et après avoir lu ce récit, on peut conclure que c'est une histoire qui a toutes les apparences de la jalousie entre un frère et son frère. Mais si nous prenons un peu de recul, est-ce que Caïn a vraiment des raisons d'être jaloux ? Oui, de prime abord, parce que la Genèse dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et pas sur son offrande. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour Caïn ? En effet, quand on réfléchit à la vie de Caïn dans la vie et dans sa famille, Caïn est en position de force et de supériorité. Il est l'aîné, ce qui signifie dans la culture de l'époque qu'il hériterait le double de son cadet. En plus, il va devenir le chef de son clan et donc le chef de son frère. En plus de tout cela, Ève, sa mère, lui a donné un nom qui en dit long. C'est celui que j'ai produit avec l'aide de Dieu, ou que j'ai acquis avec l'aide de Dieu. Caïn signifie acquisition. Et derrière le nom de Caïn, il se cache un verbe qui signifie acquérir, obtenir, acheter, former. Cela nous dit que Caïn, c'est la possession d'Ève. Caïn est la possession d'Ève. C'est son chouchou. Hein ? Et c'est important d'être le chouchou de quelqu'un. C'est celui qui est important. Et ça, quand on pense à la signification du nom d'Abel, c'est important. Parce que Abel, ça signifie le rien, la vapeur, quelque chose qui se rapproche du néant. Donc, Caïn, le chouchou d'Ève, n'a normalement rien à envier à Abel. Eh bien, quand même, pour Caïn, le jugement de Dieu compte encore et compte aussi, et Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Alors certains ont conjecturé que c'était dû à la qualité de l'offrande de Caïn, dont le sacrifice de Caïn, en effet, n'était pas sanglant. Mais cette hypothèse, elle est assez fragile et elle n'est pas directement étayée par la Bible, en tous les cas pas, dans ce passage. Et il est tout aussi possible que le déplaisir de Dieu soit dû, en fait, à l'attitude de Caïn, plus qu'à son sacrifice, au sacrifice qu'il a offert. La Bible, en tous les cas, ne nous propose pas ici un sens au déplaisir de Dieu. Quand on réfléchit à tout le reste de la Genèse, on s'aperçoit que dans le cadre de la Genèse, toutes les fratries mentionnées sont conflictuelles et teintées de rivalité. Avec un point commun qui revient, il y a toujours des chouchous dans ces fratries. Et le plus souvent, le chouchou finit par écarter l'autre, donc son frère, hein, qui est moins aimé. Donc, je crois que c'est important de se rendre compte de cette différence entre Caïn et Abel. Parce que si Caïn est le chouchou, Abel, lui, il est quasiment rien. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, dans ces fratries, le plus souvent, le chouchou finit par l'emporter. Isaac écarte Ismaël, Jacob écarte Ésaü. Et Joseph, le chouchou de son père, ben, si vous connaissez l'histoire, et ça vaut la peine de relire ces histoires dans Genèse pour le constater, Joseph est écarté par tous ses frères aînés. Et finalement, on s'aperçoit que toutes les personnes qui sont en fait en position de force ont tendance à être celles qui jalousent ceux qui sont en position qu'on considérait plutôt de faiblesse. En revenant à Caïn, ben son nom dit que c'est celui qu'Ève s'est acquis avec l'aide de Dieu. Et alors, ça veut dire aussi que si on porte l'accent sur l'acquis et non plus sur le don de Dieu, ben ça change tout parce que, évidemment, ce qui est un don au départ se transforme un peu insidieusement en une acquisition et donc en une possession. Et une telle attitude de la part d'Ève, elle l'a probablement transmise à Caïn, et cela a conduit Caïn à transformer sa vie, ce qu'il est et ce qu'il a, en dû, en possession, et non plus en don. Et quand le don devient acquisition, ben il devient quelque chose qui m'appartient avec la crainte de le perdre, et si jamais je le perds, ben je peux commencer à avoir l'impression de ne plus exister. Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, nous courons ce même risque de transformer ce que nous avons reçu, le don que nous avons reçu, en quelque chose qui nous est dû, en quelque chose que nous devons défendre, en quelque chose qui nous appartient, dont nous sommes propriétaires, et non plus qui nous a été donné. Donc, quand on est dans ce processus, ben on s'aperçoit que, très rapidement, la gratitude qu'on pourrait éprouver pour le don reçu fait place à de l'orgueil. La Bible nous le dit ailleurs, dans les Corinthiens, je l'avais déjà dit au début, pour introduire, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Nous voilà en présence de l'orgueil qui nous habite si facilement, aujourd'hui encore. L'orgueil réagit contre tout ce qui lui résiste. Un peu comme chez Caïn, par l'irritation, la colère, qui sont décrites entre les versets 5 et 7. Et constatons que dans cette situation de colère de Caïn, ben, Dieu ne le repousse pas. Dieu pourrait nous repousser quand nous sommes en colère. Dieu n'a pas repoussé Caïn. Il ne l'a pas abandonné. Mais même, il lui parle. Et il lui parle sérieusement. On le lit au verset 6 et 7. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. En revanche, si tu agis mal, si tu agis mal, ça sera différent. Le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Alors, est-ce que nous sommes le chouchou de quelqu'un ? Ça n'a pas l'air ? Si. Est-ce que nous sommes les chouchous de Dieu ? Non. 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 Qu'est-ce que c'est un chouchou ? C'est quelqu'un qui est préféré à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes... vous croyez que Dieu vous préfère à moi ? Vous êtes toujours des chouchous, alors ? Non. Vous n'êtes pas des chouchous, parce que Dieu ne fait exception de personne. Hein, il le dit dans sa parole. Tout le monde est au même point. Par contre, il nous aime tous autant. Et ça, c'est peut-être difficile à comprendre. Est-ce que vous arrivez à saisir que quelqu'un puisse vous aimer autant que votre voisin, sans que votre voisin soit le chouchou ou que vous ne le soyez ? C'est pas évident, hein ? Mais c'est quand même comme ça que le Seigneur nous présente les choses. Alors, Les effets de l'orgueil sont très perceptibles aujourd'hui dans le monde. C'est étonnant quand on voit les effets de l'orgueil à grande échelle dans les conflits actuels de notre monde, en Ukraine, en Israël, à Taïwan, et puis dans plein d'autres endroits. Qu'est-ce qu'on y peut, nous ? Pas grand-chose. Vous êtes d'accord ? Alors réfléchissons plutôt à ce qui se passe en nous, à notre échelle. Qu'est-ce qui se passe en nous ? Est-ce qu'on peut aussi le discerner, l'orgueil ? Peut-être que j'occupe un poste à responsabilité et que je ne supporte pas d'être remis en question par un subalterne. Peut-être que je suis prof et je ne supporte pas qu'un élève mette le doigt sur l'une de mes failles. Je peux être père ou mère et ne jamais demander pardon pour une attitude injuste que j'aurais eue avec un de mes enfants. Et puis, je peux vouloir toujours avoir le dernier mot. Ça me ressemble un peu des fois, ça. Quand notre orgueil se manifeste, sur quoi est-ce qu'il s'appuie ? Est-ce qu'il s'appuie sur une position reçue ou une position que nous nous sommes acquises à la force du poignet ? Est-ce qu'il s'appuie sur une fonction ? Sur notre force ? Sur notre intelligence ? Peut-être sur une blessure sur laquelle je m'appuie pour jouer la victime ou pour justifier l'envie de me venger ? La Bible dit que Dieu a de la haine pour certaines attitudes. Et parmi ces attitudes, il y a l'orgueil. Elle dit notamment que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles, et l'humilité, c'est exactement l'opposé de ce qu'est l'orgueil. L'orgueil nous remplit d'illusions. Il nous donne une fausse image du monde, une fausse image des autres, une fausse image de nous-mêmes. Et finalement, parmi beaucoup d'autres choses, l'orgueil nous fait oublier que la vie que nous avons est un cadeau à recevoir des mains de quelqu'un qui est plus grand que nous, des mains de Dieu qui est au-dessus de toute chose. Et ça, c'est formidable de savoir cela. L'orgueil a tendance à nous mettre au-dessus des autres et a tendance à nous rendre incapables de les apprécier à leur juste valeur. Et puis, l'orgueil cherche toujours des excuses. Il cherche toujours des excuses pour se justifier en nous, à cause de la tradition, du règlement, des usages, de la nécessité d'avoir de l'ambition, et puis on invoque même Dieu pour être orgueilleux. On se justifie avec la psychologie et nos blessures d'enfance, par exemple. C'est une manière de s'en sortir aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le récit de Caïn et Abel, contrairement à ce que Caïn pense, Caïn est l'objet de l'attention et de la sollicitude de Dieu. Dieu ne cesse de lui adresser la parole. Il essaye sans cesse de le repêcher. Mais Caïn, apparemment, fait la sourde oreille. Et il n'entend pas jusqu'à l'irréparable. Et même après l'irréparable, Dieu continue encore à se préoccuper de Caïn et à lui donner toute son attention. Il va aller jusqu'à mettre sur lui une marque protectrice. Et quelle est la réaction de Caïn à tout ça ? On la découvre au verset 13. Sa réaction, malheureusement, c'est de dire « Ma peine est trop lourde à porter ». C'est terrible quand même. Pas un regret, a priori, d'exprimer dans ce passage. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas eu. Mais en tous les cas, ce qu'il a exprimé, c'est que sa peine était trop difficile, que sa punition était trop difficile. Quand on revient à ce qu'on vit en ce moment à l'échelle mondiale, à toutes ces crises, est-ce qu'elle ne serait pas un signe que Dieu est en train de secouer le cocotier de l'orgueil de l'humanité, de l'orgueil de nous tous? Et quand la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, parle de la foi d'Abel et qu'elle dit qu'il offrit un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn, est-ce que ce ne serait pas la foi d'Abel qui ferait la différence? La foi d'Abel, celui qui était appelé le rien, le vaporeux, le néant, lui savait recevoir avec confiance l'existence que Dieu lui donnait comme un cadeau à partager dans la confiance en son Dieu. Quelque chose d'assez impressionnant. Abel est mort, Caïn a survécu et a dû mener ensuite une vie difficile. L'exemple de Jésus, l'exemple que nous laisse Jésus, est absolument sublime et suprême, parce que Jésus nous a montré, lui, le chemin de l'humilité. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas utilisé son droit d'être traité comme Dieu, nous dit Philippiens 2 et au verset 6. C'est donc tout le contraire de Caïn. Jésus s'est fait homme et serviteur jusqu'à la mort. Il nous a considérés plus importants que lui. Il a voulu que nous puissions exister dans la vérité sur qui nous sommes, effectivement, avec notre ADN de pécheur, avec notre ADN de déviant, mais de déviant aimé de lui. Et parce que nous sommes aimés de lui, Jésus a donné sa vie à la croix, plutôt que de nous prendre la vie. Parce que lui, il veut la paix, et il nous invite à vouloir la paix. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix, nous dit l'apôtre Paul aux Romains, en paix avec tous les hommes. Alors, je crois qu'à la fin de cette réflexion bien incomplète, encore, regardons à Jésus qui, lui, est l'expression de la véritable humanité, de l'humanité telle que Dieu la voulait. Il est le chemin, la vérité, la vie, il est le chemin qui mène à Dieu, qui nous mène aussi à la vraie humanité. Il est le regard que le Père pose sur nous. Le don du Père pour nous qui veut façonner notre vie et qui veut façonner aussi notre regard sur les autres et qui nous a donné la vie comme un don. Alors, puissions-nous recevoir ce don avec moins d'orgueil et avec plus de gratitude en nous souvenant que toute chose, toute grâce excellente et tout don parfait proviennent du Père, en qui il n'y a aucune ombre de variation, ni aucune ombre de changement, comme le dit Jacques. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans notre cœur cette foi et cet espoir qui nous permettront de vivre, de mener notre vie plus loin. Amen.